Lisez-vous, chers auditeurs, le Manchester Guardian? Non? Je me demande ce que vous lisez, alors. Si vous lisiez le Manchester Guardian, vous seriez au courant de la controverse culinaire suscitée dans ses colonnes par la décision des autorités de Weymouth qui, ne pouvant plus actuellement nourrir leurs cygnes, ont décidé de les tuer et de les livrer à la consommation. Le journal anglais citait l'opinion de Disraeli, le fameux homme d'État, qui, ayant eu l'occasion d'en goûter, s'en était délecté, comme faisaient jadis les patriciens d'Athènes et de Rome. La question peut nous intéresser, car ceux qui font l'ornement de notre léman commencent eux aussi, dit-on, à se mettre la ceinture, n'ayant plus à compter sur les largesses des riverains. Souhaitons à tous d'arriver à se tirer d'affaire, nous avec les produits du sol, et eux en faisant, en puisant dans les flots bleus, une maigre mais suffisante pitance. Qu'en est-il au juste des vertus culinaires du cygne? Cette majestueuse volaille, que nous ne considérons aujourd'hui que bonne à décorer les lacs et les étangs, à inspirer des vers bien balancés ou des mélodies pour violoncelle avec accompagnement de harpe, était réservée autrefois à la table royale et au festin des grands seigneurs, de même que le paon et le faisan. Ces plats somptueux étaient servis en volière, c'est-à-dire qu'ils étaient dépouillés de leur peau, qui était préparée avec tout le plumage, la queue disposée en éventail au moyen d'un fil d'archal, la tête était protégée du feu par un linge maintenu humide pendant le rôtissage, le bec et les pattes étaient dorés, et souvent le bec paraissait vomir des flammes par l'effet d'un morceau de camphre allumé. L'apparition du noble oiseau était pour les chevaliers l'occasion de formuler un vœu. Prenant à témoin les dames, il promettait de partir en croisade, de provoquer le sultan en combat singulier, de monter le premier à l'assaut d'une ville. Rabelais cite parmi les viandes royales, viandes de noblesse, le cygne, la cigogne, la grue et le butor. Ces merveilles, observe cependant Pierre Belon, que l'estomac de l'homme puisse faire son profit de toute manière d'oiseaux dont les chiens affamés ne veulent goûter. Voilà qui n'est guère encourageant. Mais à la fin du XVIe siècle, Olivier de Serres, dont la Bibliothèque nationale a fêté il y a 2 ans le tricentenaire, cite le cygne comme possédant la chair la plus exquise qui se puisse manger. Et au repas offert à Catherine de Médicis en 1549 par les échevins de la cité, figuraient entre autres une grue, 33 héronaux et 21 cygnes. La Seine fut un temps couverte de beaux cygnes blancs qui laissèrent leur nom à l'île des cygnes. Fouquet les avait fait venir de Scandinavie. Mais ils ne tardèrent pas à disparaître. On avait découvert à leur chair et à leurs œufs certaines propriétés rajeunissantes qui les faisaient rechercher des vieux galants. En sorte qu'au lieu de taquiner le goujon, les pêcheurs escamotaient les cygnes, et il fallut les protéger. Louis XIV lui-même s'était assuré quelques braconniers qui, au printemps, lui fournissaient pour une cure de rajeunissement les œufs et des petits de cygnes vivants. Il n'en restait plus un sous la Révolution. Cependant, Dumas père, dans son oracle du cuisinier, assure que la chair du jeune cygne est plus tendre et plus savoureuse que celle de nos meilleurs palmipèdes. Mais l'auteur des Trois Mousquetaires est un culinographe hableur. Il n'est pas certain qu'il en ait jamais mangé. En quoi il serait dans le même cas que celui qui vous parle et probablement que tous ceux qui l'écoutent. En attendant donc le jour qu'il ne faut pas souhaiter, où l'oiseau de Lohengrin reparaîtrait sur nos tables, voici une recette de Taillevent, le maître-queue du roi Henri V. Mais je dois vous prévenir que tous les érudits gastronomes qui ont tenté d'exécuter ces formules moyenâgeuses sont toujours arrivés à un résultat qu'ils ont reconnu eux-mêmes déplorable. Mettre l'oiseau à la broche, après l'avoir lardé, à mi-cuisson le larder de clou de girofle, prendre alors une once de poudre d'épices, graines de paradis, poivre long, noix muscade, et 2 onces de cinnamone. Le tout sera mis sous le rôti, délayé dans une chopine d'eau de rose et une chopine de vinaigre. La sauce sera passée par l'étamine et additionnée d'un quarteron de sucre. D'autre part, on fera confire au sucre, comme épice de chambre, une demi-livre de cinnamone et une poignée d'oignons. On garnira le rôti de cette confiture et on mettra la sauce dessous. Maintenant, n'oubliez pas le fameux chant du cygne, ce chant d'une splendeur si émouvante qu'il émet au moment de mourir et auquel aucun cœur ne résiste. Et rappelez-vous la fable du bon La Fontaine. Un jour, le cuisinier, ayant trop bu d'un coup, prit pour oison le cygne et, le tenant au cou, il allait l'égorger pour le mettre en potage. L'oiseau, prêt à mourir, se plaint en son ramage. Le cuisinier fut fort surpris. Il vit bien qu'il s'était mépris. « Quoi, je mettrais, dit-il, un tel chanteur en soupe ? Non, non, ne plaise au Dieu que jamais ma main coupe la gorge à qui s'en sert si bien. » Ainsi, dans les dangers qui nous suivent en croupe, le doux parler ne nuit de rien.